à toutes et à tous. Vous êtes évidemment sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, à l'écoute du rendez-vous mensuel de Longtemps, je me suis couché de bonheur, l'émission musique et cinéma préférée des hédonistes et esthètes de France et d'autres Kiévrains. Thomas Faux au micro, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon des sorties en salle. En ouverture, nous écoutions She's on the Radio de Ponyhawks, probablement le plus grand groupe de rock français de ces 25 dernières années, hélas passé sous les radars du grand public, on se lasse de le répéter, et auquel la mort de son chanteur, Nicolas Kerr, voici 4 ans, aura mis fin. Un tardif best-of de Ponyhawks agrémenté de 2 inédits paraîtra le 12 avril chez Pan European. Je saisis donc l'occasion qui m'est donnée pour leur rendre un dernier hommage. Hommage que j'appuierai, je le précise, en toute fin d'émission. Mais à présent, parlons cinéma. Il paraît que nous sommes là pour ça, pour ce faire avec moi aujourd'hui. Et autour de cette belle table ovale tachetée de petits points délicats, Florent Boutet et Clément Deléchaud de la rédaction des Fiches du Cinéma. Bonjour Florent.
Bonjour Thomas.
Bonjour Clément.
Ouhou, bonjour Thomas.
Comment allez-vous? Avez-vous quelque chose à déclarer avant de commencer?
Ah bah super, le cadeau. Non, tout va bien, je suis très content de revenir.
Eh bien, nous sommes ravis de t'accueillir à nouveau sur ces ondes. Et Francis Gavel, votre serviteur sur ces ondes, depuis maintenant 27 ans et créateur de l'émission susnommée, se joint à nous évidemment pour évoquer les films du jour et il vous passera également de la musique, car tel est son goût et le vôtre, nous l'espérons, si vous nous écoutez en podcast, depuis une planète terraformée et un hypothétique futur. Nous sommes donc le samedi 22 février 2025. Arsenal est deuxième de Première Ligue, Amiens 10e de Ligue 2 et Sochaux 8e de National. Voilà. Chères auditrices, chers auditeurs, vous savez tout ce qu'il y a à savoir qui procure de la joie et de l'élévation, excepté pour les arts et lettres élargis aux activités mécaniques, et justement, nous y venons. Mais avant d'aborder l'actualité en salle, puisque tel est notre programme, je crois que tu voulais, Francis, à ton tour, te fendre d'un hommage.
En effet, Thomas. Le 14 février dernier, Carlos Diéguez est parti. Réalisateur brésilien, il avait été dans les années 1960-1970 l'un des fers de lance du cinéma novo, cette nouvelle vague empreinte de réalisme social, d'esprit révolutionnaire, de manquement au bon goût et qui s'affirmait à travers le slogan « Une idée en tête, une caméra au point ». Si je dois cependant l'avouer, je connaissais fort mal sa filmographie, marquée par quelques œuvres ainsi de Gamba Zumba et Chica da Silva, qui revendiquaient haut et fort la place de la culture des esclaves noirs dans l'héritage fondateur de la nation brésilienne, un hasard de la vie me permit de faire sa connaissance. De fait, admis à participer en 2012 au jury de la Caméra d'Or, cette récompense qui distingue un premier long métrage au Festival de Cannes, j'appris qu'il en serait le président. Nous passâmes alors 12 jours, espiègle le jury de 6 membres que nous étions, à faire connaissance et à refaire le monde, tout du moins celui du cinéma. La fin de l'escapade cannoise ne rompit néanmoins pas la digue, toute naissante de l'amitié, et nous nous retrouvâmes à chacun des passages parisiens de Carlos Diéguez. Quelques dîners, et puis, surtout une invitation radiophonique. Car oui, il honora longtemps Je me suis couché de bonheur de sa présence. C'était le samedi 20 avril 2013, et tandis que le Festival du cinéma brésilien de Paris lui rendait hommage, il fit un petit crochet par notre studio. Alors, en guise de dernier au revoir, écoutons-le dans un court extrait de cette émission évoquer la genèse du cinéma novo. En memoria de voce, Carlos.
Ce moment-là, c'était un moment, c'était beaucoup avant la dictature militaire qui nous a fait du mal pendant 21 ans. Donc c'était une période très démocratique au Brésil. Nous avions beaucoup de liberté. Il y avait une volonté de modernisation du pays à ce moment-là. Pas simplement dans la culture, mais dans l'économie. C'est le moment où on construit, on bâtit Brasilia, la capitale. C'est un moment de renouvellement de la nation. On était sûr que le Brésil aurait été le principal pays au monde. On avait le même projet, c'est-à-dire de construire un cinéma brésilien qui ne pouvait être fait que par nous-mêmes, c'est-à-dire un cinéma très particulier, très moderniste, du point de vue d'un nouvel langage, un langage basé sur la tradition populaire de la culture brésilienne, de nouveaux thèmes, oui, à partir de la réalité sociale du pays, en essayant d'expliquer dans les cinémas qu'est-ce que le Brésil était. Nous étions très jeunes et en même temps très, comme je peux dire, très, très, très simple. Nous avions un projet de cinéma qui n'avait que trois points, un petit programme de trois points, qui c'était changer l'histoire du cinéma, changer la société brésilienne et changer la planète. C'était tout ce qu'on voulait faire avec nos films. Évidemment, nos films n'ont pas réussi ce projet, mais on a réussi la modernisation du cinéma brésilien. Aujourd'hui, je vois clairement que le cinéma novo était la fondation du cinéma moderne au Brésil. Vous savez, c'était l'arrivée du modernisme au cinéma, une arrivée tardive du modernisme au cinéma, et qui a, d'une certaine façon, fondé le cinéma moderne au Brésil. Et c'est ça que nous avons fait avec. Tout d'un coup, ça a fini parce que, avec la dictature militaire, ils nous ont volé, nous ont interdit la matière première de nos films, qui était la réalité brésilienne.
Merci, Francis, pour cet hommage. Sans transition, le chien est-il le meilleur ami de l'humain? L'ayahuasca est-elle bonne pour le transit? La Corse est-elle le nouvel Eldorado du cinéma français? Le béton épouse-t-il la forme de nos rêves? Existe-t-il une taxinomie du câlin? Aristote Onassis était-il le Pete Davidson des 60s? Telles sont quelques-unes des questions en rapport avec les films du jour auxquelles mes chroniqueurs ne seront pas tenus de répondre. Et trêve de plaisanterie, cette fois, comment survivre après Buchenwald? Nous y viendrons tout à l'heure. Et pourquoi pas, que peut encore le cinéma? Celle-ci vous y répondrait nécessairement, ne serait-ce que par la bande, car ce samedi, le cinéma est au programme. Soyez-en assurés, chères auditrices, chers auditeurs. Et nous en venons donc au premier film de cette table ronde. J'ai nommé Queer de Luca Guadagnino, cinéaste qui d'ordinaire me laisse quelque peu circonspect, mais je dois vous avouer que cette fois j'ai eu comme un regain d'intérêt pour son travail. Il s'agit de l'adaptation d'un roman écrit au mi-temps des années 50, mais tardivement publié 30 ans plus tard, de William S. Burroughs, roman envisagé par l'auteur comme une sorte de prolongement de Junkie. Junkie aurait été également un titre pertinent pour le film qui nous occupe aujourd'hui. Nous sommes à Mexico dans les années 40. William Lee, états-unien à la cinquantaine, erre dans les bars de la ville, où il boit plus que de raison, fréquente un cercle d'expatriés pas beaucoup plus en forme que lui, et cherche des hommes avec qui passer la nuit. Lorsqu'il rencontre le jeune et séduisant Eugene Allerton, il en tombe amoureux et entreprend de le séduire sans être certain d'abord qu'il soit lui aussi queer. C'est là l'argument du premier segment du film, qui donc est chapitré. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, nous en dire plus. Dans les fiches du cinéma, Michael Ganem, qui a découvert le film à Venise, où il était en compétition officielle. Tu y étais aussi, Florent, à Venise.
Absolument.
Pas en compétition, mais voilà. Et qui sait, un jour prochain, peut-être. Michael Ganem, donc, y évoque un film rugueux dans sa forme, mais tendre dans son fond. Aux côtés de Daniel Craig, on y retrouve Drew Starkey, Leslie Manville et Jason Schwartzman, et c'est d'ores et déjà en salle, pardon. Alors messieurs, Daniel Craig porte-t-il bien le complet blanc et plus encore le poids des années? Qu'avez-vous pensé du film? Avez-vous été sensible à son charme queer et psychotrope?
Je veux bien commencer. J'ai bien commencé parce que ce qui m'intéresse chez Guadagnino, qui est un cinéaste dont l'œuvre globale est quand même effectivement médiocre, sans nécessairement dire que c'est absolument mauvais, c'est médiocre. C'est pile au niveau de la ligne de flottaison du bon et du mauvais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a longtemps été considéré comme une sorte de, un peu de moine copiste de ce qui se faisait avant. Il a même fait un remake, bon, très mauvais pour le coup, de Suspiria de Argento. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant pour moi un habile faiseur qu'un créateur maladroit. C'est l'inverse absolu. C'est-à-dire qu'en prenant, en essayant de recopier, de refaire, d'émuler ce qui a déjà été fait, il arrive toujours à une forme de prédation du matériau d'origine et à quelque chose d'extrêmement... à force de peindre l'image d'une image, c'est un cinéma qui se veut sexuel, qui est absolument pas sensuel. Et donc c'est un cinéma qui passe son temps à enlacer les fantômes, ou en tout cas à faire un peu comme les corps béats qui ont des sexes mais qui ne s'en servent pas. Et donc, en adaptant Queer, qui est donc l'errance mélancolique d'un personnage qui en fait est autant digne de Burroughs que du Bart d'Incident ou du Bart de Fragment, c'est de représenter à quel point le désir, et en plus le désir considéré à l'époque comme inverti, fan disparaît à partir du moment où de fait on est regardé, et à partir du moment où du fait on est plus rendu autre. C'est ce rapport là à l'homosexualité qui est effectivement un rapport de prédation de cet homme, de cet expatrié, de cet apatride, qui est un apatride sexuel, qui est un apatride social. Bon, en plus, quand on sait pourquoi c'est expatrié de force, Burroughs, bon, il y a un apatride moral également. Et donc cette première heure, qui est sans doute la meilleure première heure de toute l'histoire du cinéma de Guadagnino, je pense qu'on pourrait même dire aux gens de seulement aller voir la première heure, c'est exactement ce que veut faire Guadagnino depuis tout son cinéma, c'est enlacer les fantômes. C'est-à-dire représenter un désir qui, de fait, est incomplet à partir du moment où il existe. Il y a des très belles scènes où le personnage de Daniel Craig invite son amant au cinéma, par exemple, ne fait rien, mais son corps, puisque avec son corps on peut aller jusqu'aux étoiles, son corps transparent, fantomatique, enlace l'amant, le touche, le caresse. C'est-à-dire que ce sont les vraies manifestations d'amour, et elles sont intangibles. C'est-à-dire les scènes de sexe sont d'une tristesse absolue. Les scènes de sexe sont toujours suivies d'embardées oniriques qui sont toutes plus ou moins nulles, puisque c'est plus ou moins adapté de Jodorowsky, donc c'est plus ou moins nul, enfin c'est plus ou moins raté dès le début. Et donc cette incapacité à représenter ce qu'est le plaisir sexuel autrement que comme une pulsion autophagique, c'est absolument brillant dans le premier film. Surtout que c'est rajouté à une bande-son brillante, anachronique. Les amateurs de Nirvana qui sont encore présents.
Voilà. Il en reste quelques-uns.
Voilà, exactement. Il doit y avoir New Order aussi, si je ne dis pas de bêtises.
Ne nous vieillis pas trop.
Il y a toujours du New Order.
Il y a toujours du New Order. Voilà. Bon, pour aller vite, la première heure, c'est exceptionnel. C'est les années 50 encapsulées. Je ne pensais pas que Guadagnino était capable d'être aussi puissant tout en étant aussi allusif. La deuxième heure ne me parle absolument pas. C'est-à-dire qu'en respectant à la lettre le roman de Burroughs, on arrive à effectivement une forme de cut-up turbo abstrait où on atteint les portes de la perception et où l'impossibilité de toucher l'être aimé se mêle à la pensée psychédélique des années 50 qui moi me semble beaucoup moins tenue. Leslie Manville, que tout le monde aime ici je pense, est réduit à une sorte d'archétype mi-pantomime, mi-fantôme, mi-sorcière. Ça fait 3 mi mais ça marche pas. Donc j'ai pas grand chose à dire sur la deuxième heure qui, moi, pour moi, me semble pas du tout tenue, mais comme les romans de la Beat Generation ne savent pas se terminer, de toute façon, de fait, ça termine forcément que de poisson. Je retiens la première heure qui est la plus belle déclaration d'amour aux fantômes possible qui a été faite ces dernières années. Donc c'est déjà pas mal, une heure sur deux.
Florent, je me tourne vers toi.
Ben, on est mal barré parce que j'ai exactement la même analyse que toi. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas utilisé le mot médiocre, mais il m'intéresse pas, en fait, Guadagnino, sur son cinéma. M'a jamais véritablement touché, même pas Call Me By Your Name, qui est un espèce de totem pour beaucoup de gens. Moi, en tout cas, je m'ennuie beaucoup.
Qui est une version asexuée des films de Ivory, qui étaient déjà des films.
Mais c'est ça, et c'est là que je suis totalement dans ce que tu dis aussi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sensualité dans celui-là, et je m'attends. Alors que c'est quelqu'un qui dilue tout d'habitude. Donc on est vraiment dans l'antithèse de tout ça. Et pourtant, je trouve que le projet, il est super casse-gueule, parce que est-ce que c'est intéressant encore aujourd'hui? Est-ce que ça a jamais été intéressant d'adapter la Beat Generation? Est-ce qu'on a un exemple de quelque chose au cinéma qui a vraiment été intéressant autour de leur œuvre? J'en suis pas convaincu. Je pense que c'est un espèce, pareil, encore une fois, j'utilise encore le mot, mais c'est un espèce de totem qu'on brandit un petit peu de manière artificielle et qui fonctionne pas souvent. Et pourtant là, c'est vrai que cette première heure, on est dans un espèce de parc d'attractions, un truc complètement, on dirait, pour la peine, du studio, où on te fabrique un espèce de Mexique qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais.
Au bord de la maquette.
Oui, voilà, un peu comme New York, New York de Scorsese, où les trottoirs sont volontairement plus grands que ce qu'ils sont pour donner vraiment un aspect carton-pâte. Et on a Daniel Craig qui se balade au milieu de tout ça, et alors en dehors de tout discours moral, qui est quand même. Oui, parce que William Burroughs est quand même quelqu'un de dégueulasse, il faut quand même le rappeler, c'est quelqu'un qui a assassiné sa femme et c'est pour ça qu'il s'enfuit des États-Unis. C'est quelqu'un qui se balade en permanence.
Merci de recontextualiser, effectivement, de développer ce que Clément avait.
qu'il avait suggéré, mais que je trouve utile. Quand même de rappeler, c'est quelqu'un qui se balade en permanence dans le film avec son arme, qui est une espèce d'excroissance supplémentaire de sa virilité, qui est déjà pourtant omniprésente et qui suinte par chaque image. Et donc au milieu de tout ça, il y a quelque chose vraiment de fantastique qui se crée. Et effectivement, même s'il y a de la tristesse dans ces scènes érotiques, et notamment dans la première scène dans une chambre de passage qui est extrêmement dramatique, il y a un espèce de registre de la comédie qui s'est mis au milieu du plan, qui moi je trouve assez génial, où il en est tellement ridicule, le personnage de Daniel Craig, qu'il en est drôle, qu'il en est presque jubilatoire. Et dans ces mimiques et dans cette espèce de pantomime, comme le dit Clément, qui se développe dans le film, il y a quelque chose de brillant qui émerge. Et du coup, la deuxième partie...
Il faut préciser, pour caractériser un petit peu plus avant le personnage, qu'il est quasiment sous du matin au soir.
Oui, parce qu'on est dans l'exubérance la plus totale et que le sexe est alimenté par l'alcool et est dans une espèce de...
C'est un personnage gluant.
Ouais, gluant dans tous les sens du terme. Il est gluant, il est moite, il est dans cette espèce de liquidité permanente, autant ingérée qu'exudée. Et donc ça donne quelque chose d'à la fois dégoûtant, mais à la fois de fascinant, notamment dans ce regard qu'il a sur ce jeune personnage qui s'appelle Eugene,
oui.
Et qui est à la fois un objet de convoitise, de enfin c'est très 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 étrange la façon dont il le regarde. Et quand on a cette rupture dans le scénario où on passe dans quelque chose d'autre, où on quitte le carton pâte et qu'on va s'immerger dans la jungle et dans tout ce discours autour de la drogue qui effectivement est une prolongation assez assez logique et assez qui fait vraiment penser à Junkie, effectivement, ça n'a plus aucun intérêt. C'est à partir de là, j'ai bien du mal à ne serait-ce qu'à me rappeler de détails de cette deuxième partie, tellement elle intéresse peu. Et là où on replonge dans ce que Guadagnino fait par ailleurs, quelque chose de totalement peut-être médiocre, effectivement.
Alors, je tiens à dire, moi, ce que je dis rapidement, hein, c'est donc encore une fois dans cette dimension d'habile faiseur, ou en tout cas de créateur maladroit. Je trouve ça assez impressionnant les similitudes qu'on peut tracer entre ce film et le cinéma de Where Is It All Cool. Donc si on peut conseiller aux amateurs de Happy Chat Pong de tenter le film, c'est-à-dire le film scindé en deux avec une deuxième partie dans la jungle sur l'évidente mélancolie qui s'empare du sentiment amoureux dès lors qu'on ne sait pas si à partir du moment où le verbalise, il va pas devenir de fait évanescent. Je pense qu'il y a des ponts à tirer, et je pense que Guadagnino est un très grand cinéphile, ou en tout cas un grand cinéphage. Donc voilà, c'était bien quand même.
Merci. Messieurs Queer de Luca Guadagnino, ce sera donc en salle à compter de mercredi prochain. Je voulais que nous disions un petit mot aussi d'un film que j'ai beaucoup aimé, je dois dire, qui s'appelle Black Dog. Et puis après, bien sûr, nous inviterons Francis à nous rejoindre à cette table et à entrer dans la ronde herméneutique, comme le dit Clément Deléchaud. Black Dog, donc le sujet en quelques mots. Nous sommes en 2008, à quelques semaines de l'ouverture des JO de Beijing. Dans une petite ville aux portes du désert de Gobi, un jeune homme, Lang, fraîchement sorti de prison, entre chez lui. Une ville plus ou moins en ruine, mais où promettent, nous dit-on, de s'installer prochainement de nouvelles usines et que traversent des meutes de chiens errants traqués par des individus à la moralité douteuse. Et Lang, le The Lang, se prend justement d'affection pour un chien noir efflanqué qui pourtant l'avait mordu. Tonalité bleu-grise du désert et du ciel qui le surplombe, architecture délabrée d'une ville post- et peut-être pré-industrielle, composant un décor par endroits presque post-apocalyptique, pour tout dire, on se croirait parfois dans Mad Max. Société atomisée, c'est un portrait sans phare de la Chine, comme on en a tant vu, allusif dans ce qu'il énonce, frontal dans les visions auxquelles il donne lieu, mais le film peut être plus singulier qu'il n'y paraît, en tout cas me suis-je dit. En découvrant son plan d'ouverture, tiens, voilà du cinéma. U Guan, 56 ans, avait déjà plusieurs films à son actif, mais Black Dog est le premier à sortir en France et à bénéficier d'une telle exposition à l'international, grâce notamment, on s'en doute, à sa présence l'an passé à Cannes, où il a d'ailleurs remporté le prix Un Certain Regard. Au casting, Eddie Peng, Li Yatong et, figurez-vous, Jia Zhongke dans le rôle d'un parrain local. Jia Zhongke, dont, souvenez-vous, nous avions dit le plus grand bien en évoquant en janvier, sur ces mêmes ondes, son dernier film en date, le splendide Les Feux Sauvages. Florent, peux-tu nous en dire un mot? Je sais que tu avais vu et découvert le film à Cannes et que d'ailleurs, tu as, je vais faire encore une fois, la promotion éhontée de la revue pour laquelle nous écrivons, Clément, toi et moi, les fiches du cinéma, puisque tu as rencontré aussi le cinéaste à Cannes l'an dernier à l'occasion de la présentation du film Au Certain Regard, et ça fera l'objet d'une parution dans le mensuel de mars des fiches du cinéma. Je n'ai que trop parlé, je te cède la parole.
Ouais, c'est un auteur du coup que j'ai dû un peu sur lequel j'ai un petit peu travaillé, où j'ai dû étudier son parcours, parce que moi j'aime beaucoup le cinéma d'Extrême-Orient et le cinéma chinois en particulier, et c'est quelqu'un donc on se dit mais ça ressemble à un premier film. 56 ans, ça ressemble à un premier film, le mec a 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, beaucoup de films, beaucoup de choses. Et alors, le fait de voir surgir Jia Zhongke en acteur dans son film...
Ce que j'ai compris pour ma part, plusieurs jours après avoir vu le film.
Parce que encore faut-il savoir à quoi ressemble Jia Zhongke. On n'est pas forcément obligé de le savoir. On n'est pas obligé d'en avoir quelque chose à faire.
Je m'étais pas figuré que c'était possible de voir Jia Zhongke acteur dans un film, ce qu'il a peut-être déjà fait.
Qu'il avait déjà fait, mais là il joue un vrai rôle pour la peine.
J'avais pas envisagé la chose possible.
Ne vous engueulez pas, les gars.
Et
Titanic Roche.
On discute. Donc, Dziadzianke est en fait un camarade d'université de Guangzhou. C'est des gens qui ont fait l'école de cinéma à Beijing au début des années 90 ensemble, qui appartiennent à la même génération, parce que les Chinois adorent parler de génération depuis la création de la République populaire de Chine, donc depuis la fin des années 40. Et ils appartiennent à la même génération de cinéastes, chose qui d'ailleurs ne l'intéresse pas du tout, parce que si vous lui parlez de ce genre de choses, lui, c'est pas du tout son problème. Et donc, premier film à 56 ans qui arrive jusqu'en France, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui faisait des films pour la télévision chinoise, faisait des films grand public, et qui, chose assez extraordinaire, n'a jamais eu aucun problème pour sortir un film. On sait quand même que la Chine, c'est pas un pays de gentil, c'est un pays où il y a une censure extrêmement sévère et où tout ne sort pas et les films sont souvent empêchés. Un film comme Le Retour des Hirondelles, par exemple, de Li Ruijun, au bout d'une semaine d'exploitation, plus de films. C'est pas évident. Lui, il n'a jamais de problème parce que c'est quelqu'un qui a fait une carrière différente, qui n'a pas épousé ce cinéma indépendant chinois qui est né au début des années 90 et qui a préféré faire quelque chose de plus commercial et puis apprendre son métier au cinéma. Alors on voit qu'il y a du langage cinématographique effectivement dès ce premier plan. Il y a quelqu'un qui sait faire de la belle image, qui a une vraie grammaire, un vrai langage cinématographique, mais qui jusque-là avait décidé de faire autre chose. Là, je sais pas, est-ce que c'est un coup d'orgueil, est-ce que c'est la volonté d'aller à l'international et d'exister au-delà des frontières de la Chine, je ne sais pas. Il est très peu avare de mots, ce réalisateur. C'est quelqu'un qui, quand on lui parle d'intention, quand on lui parle de métaphore, de sens de ses images, va juste vous parler de ce qui fonctionne dans le cadre du scénario. Il a fait ça pour le rythme, il a fait ça pour ceci. Il va pas se dévoiler sur ses intentions. Par exemple, on pourrait s'imaginer que le chien, ce chien noir dont tu parles, est la métaphore de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire de le film se situe au moment des Jeux Olympiques de Beijing, donc au début des années 2000. Pourquoi ? Il va pas vous renseigner sur la question. Parce que en même temps, on pourrait, comme
alors
tu dis,
il peut sembler que le discours, que le parallèle déploie un discours relativement limpide sur la Chine contemporaine, enfin la Chine des années 2000.
Oui, et puis cette volonté d'un seul coup de raccrocher les wagons et de sortir la figure de Dziadzianke, qui est un petit peu le grand cinéaste chinois indépendant, qui est donc un ami à lui et qui donne un très joli rôle de parrain local. Mais enfin, le film pourrait se passer, tu parles de Mad Max, qui est un film des années 80, ça pourrait se passer dans les années 80. Il est totalement intemporel. C'est étonnant de voir comme le cinéma chinois, dès qu'il sort justement du cinéma commercial, aime sortir des villes. Pourtant, c'est des villes millionnaires, c'est Shanghai, c'est Beijing, c'est des villes millionnaires, c'est des grosses mégalopoles. Non, le cinéma chinois indépendant, et notamment Dziadzianke avec les Trois Gorges et ce genre de région-là, le Shaanxi, adore aller dans les creux, quoi, dans les failles de la Chine et dans les endroits qui sont dépeuplés. Et là, on a vraiment l'impression d'être dans un endroit où il y a eu une explosion thermonucléaire, où il reste rien et que des chiens, en fait. Et c'est étonnant, effectivement, il y a plein de significations, il y a plein de sens. Pourquoi est-ce que la filiation, l'interrogation sur la filiation, par exemple, dans le film, qui est extrêmement forte avec le personnage de Lang qui retourne voir son père, et qui lui donne des consignes un peu sur le legs qu'il veut avoir avec ce fameux animal, ce tigre qu'il doit protéger, et donc ce lien entre l'homme et l'animal, il va jamais vous renseigner là-dessus. C'est pourtant oui, la seule filiation qui est développée dans le film aussi réelle, c'est le chien qui a une portée avec une chienne de passage, alors que les êtres humains ont l'air complètement stériles,
portée dont on espère qu'elle aura une vie un peu meilleure, un peu plus agréable que
qu'elle donnera une suite. Black Dog 2, pourquoi pas.
Ouais, réalisé par Chloé Zhao pour Marvel Studios, oui, bien sûr. Mais non, mais c'est un film qui est étonnant, voilà. Et ce plan inaugural qui donne beaucoup de cinéma, comme tu le disais très justement en off avant l'émission, ne laisse même pas présager de la richesse narrative qui va suivre et de la roublardise quelque part dont il fait preuve autour de son personnage principal de Lang, qui ne parle pas à l'instar du chien et qui
c'est un personnage de taiseux. Comme on les aime. Hein.
Oui, bah, qui est un personnage de taiseux, comme on les voit dans les films post-apocalyptiques. qui va se signaler aussi par l'humour. Moi, je lui avais demandé aussi pourquoi avoir autant d'humour. On a le personnage qui arrête pas de se casser la gueule de manière un petit peu impromptue, alors qu'on s'imagine par moment qu'on va être dans quelque chose de très noir, de très sombre, de très sérieux au final. Alors que non, il dédramatise très souvent son récit.
Il y a trois scènes de pugilat aussi qui flirtent avec le burlesque.
Oui, on est presque dans le guignol et lui, il va juste vous dire que non, mais c'est le rythme du film, ça nous permet d'avancer. Il est très technique de sa manière d'affronter le truc et de se défausser un petit peu de tout ça pour, je pense, éviter un petit peu le procès du réalisateur quinquagénaire qui veut faire l'auteur. Donc non, lui, il fait en quelque sorte, Guan Hu, il fait le métier qu'il a toujours fait, à savoir d'être cinéaste et de faire de l'image et de raconter une histoire. Et on pourra après c'est le discours critique qui va, comme on adore le faire en France, faire de l'auteur et de connecter des choses que le cinéaste lui-même ne voit pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement rafraîchissant, je trouve.
Ce que tu déplores, tu penses qu'il faut qu'on arrête d'écrire, peut-être? Non,
non, ça, je pense que autour de la table, je serais pas le premier à le dire, mais c'est une pièce dans la mosaïque du cinéma chinois actuel qui est déroutante, vraiment déroutante et très difficile à analyser, je trouve.
Merci Florent. Black Dog de Guan Hu, c'est donc en salle à compter du 5 mars. Et je vous propose, avant de passer au film suivant, de faire une petite pause musicale à présent. Et on se retrouve dans quelques instants. Des actualités en salle. Après Jackie Kennedy et Diana Spencer, l'auteur de No Neruda et plus récemment Le Comte, j'ai nommé Pablo Larraine, livre ce qui s'annonce comme le dernier volet d'une trilogie d'évocation biographique consacrée à des figures du siècle passé, figures de femmes à plus forte raison. Comme dans Jackie et Spencer, le récit se concentre sur une unité de temps restreinte, à savoir les derniers jours de Maria Callas. Vous l'aurez compris, le film s'appelle Maria. Nous sommes en 1977 et la Callas, retirée dans son appartement parisien, se livre sur sa vie auprès d'un journaliste, lequel n'est autre que la matérialisation du mandrax, le puissant sédatif dont elle abuse et qui peut-être lui aura coûté la vie. La reine, nous dit enthousiaste Michael Ganem dans Les Fiches du cinéma, fait de Maria son film le plus sépulcral, celui où il a le moins recours à des artifices pour capter la mélancolie de son sujet. s'il choisit Angelina Jolie pour le rôle, ce n'est pas pour sa ressemblance avec la Callas, mais pour sa présence physique et son charisme. Jolie réussit là où d'autres auraient sans doute échoué, car elle capte aussi avec une troublante finesse la solitude qui habitait Maria Callas, et dans les séquences musicales, la fragilité de sa voix. Au casting, on l'a dit, Angelina Jolie, donc, mais aussi Pierre-Francesco Favino, Alvar Horvacher et Cody Smith, McPhee. Et c'est d'ores et déjà en salle. Pour ma part, je ne suis pas très au point sur le film. Je m'interroge notamment sur ses incessants mouvements de caméra, quand bien même je crois en comprendre le projet, à savoir accompagner le flux de conscience de la prima donna, confuse et nostalgique, mouvements qui donc m'ont bercé autant qu'agacé. Je sais déjà en revanche que pour Francis, le film a été l'occasion de renouer avec la Callas. Peux-tu nous en dire un mot ? Comment se sont donc passées ces retrouvailles, Francis ?
Je ne sais même pas si c'est des retrouvailles, hein. C'est un peu finalement...
C'était une découverte alors, un premier contact.
Pas... Non, c'est que le répertoire dans lequel a excellé la Callas, qui est quand même les auteurs, les compositeurs italiens du 19e siècle, là on vient d'écouter Donizetti, Anna Bolen, c'est peut-être pas celui qui dans la musique classique m'attirait le plus, généralement. Donc effectivement, pour moi, la Callas était à cet endroit-là, et donc j'avais un petit peu laissé la Callas de côté. Alors ce qui est assez... puisque tu parlais effectivement de la performance d'Angelina Jolie, et tout le monde a dit que voilà, elle avait donc appris... le chant, en tout cas, a posé sa voix pour qu'à l'image, on sente qu'elle était dans la même respiration que la Callas. Ce qui est intéressant, c'est que donc elle a une coach d'opéra qui s'appelle Laurie Stinson. Et finalement, choisissant un petit peu cet extrait au hasard, elle dit que ça a été une des séances les plus difficiles du film parce que ce morceau de Donizetti, cette aria, en fait, comprend des tempos différents et beaucoup de changements émotionnels. Ce qu'on remarque avec une entrée a cappella, puis l'orchestre qui arrive, et puis une fin comme ça qui reste en l'air avec juste quelques notes et il n'y a plus rien autour, quoi. Donc, après coup, je me suis dit, bah, finalement, c'est peut-être une introduction qui n'est pas inintéressante par rapport au film et à la musique du film. Mais en fait, ce qui m'a ramené, et on va enfin y arriver, ce qui m'a amené... à aller voir le film, c'est que entre-temps, j'ai eu la chance de recevoir la BO qui est éditée donc chez Warner Classic, on peut réécouter. Donc c'est une bonne intro pour la Callas, si jamais on n'a pas envie d'en écouter beaucoup mais qu'on veut s'y remettre, c'est très très bien. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, du coup, faut peut-être que j'aille voir le film quand même. Donc voilà, donc je l'ai vu. Par rapport à ce que tu disais, effectivement, c'est... si on prend Jackie, si on prend Spencer, toujours Pablo Larraine se concentre sur un temps resserré. Il ne fait pas un biopic au sens où il explore toute la vie.
À partir duquel, certes, diffuse un certain nombre de souvenirs.
Voilà. Alors, et je pense que la grande différence, à mon sens, entre Maria et Jackie et Spencer, c'est que dans Jackie et Spencer, ils se concentrent vraiment sur un seul moment de la vie de ces deux femmes, VIP, alors que là, effectivement, et c'est peut-être d'un seul coup la concession de la reine au biopic, parce que là, ça devient un peu plus classique. On a des flashbacks, et des flashbacks qui vont nous resituer l'enfance en Grèce, avec une mère qui les vend plus ou moins aux soldats allemands, mais elle s'en sort par la grâce de sa voix, avec des scènes en noir et blanc. Les flashbacks sont en noir et blanc pour montrer... finalement les différentes temporalités du film, et je trouve que là d'un seul coup il y a ce côté qui est peut-être un petit peu, je vais mettre des guillemets à la chose, mais peut-être un petit peu moins intéressant, un petit peu plus facile. On est dans un biopic plus habituel, et que c'est dommage parce que du coup on perd un petit peu ce qui pourrait être la folie du dernier moment. La folie du dernier moment, c'est quoi? C'est avant tout l'histoire d'une diva qui perd sa voix. Et c'est ça qui est la force. Et la très belle scène, et peut-être la plus émouvante du film, et la plus forte, c'est quand elle se promène dans Paris, et notamment au Trocadéro, et qu'elle est dans son univers, et que d'un seul coup, bah, à la vie parisienne qui l'entoure, elle substitue une scène de théâtre, et qu'il y a comme ça ce cœur d'homme qui avance sur elle, et là il y a une force effectivement de l'opéra italien, et qui finalement représente comme une agression pour elle, une agression des hommes, une agression que Onassis a pu incarner en étant pendant de nombreuses années l'homme de sa vie, mais sans vraiment faire sa vie avec elle. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Et puis après, ben, c'est le premier film qui soit pas purement anglo-saxon par rapport aux deux autres. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de perdre l'italien. Que, alors effectivement, c'est des conventions, je veux bien, internationales, cinématographiques, hein, pour le marché. Mais c'est dommage de perdre, avec en plus deux acteurs fantastiques qui font ces... son personnel de maison, des conversations en italien, de perdre le grec aussi, enfin voilà. Donc je suis dans un entre-deux, mais en tout cas pour renouer avec la Callas, le film vaut la peine.
Florent.
Ouais, je suis un petit peu dans la lignée de ce que vient de dire Francis. C'est même si moi j'aime plutôt les passages où il multiplie les formes, je trouve que ça apporte quelque chose. Après, les nuances que tu apportes sur les différents films de Pablo Larraine, effectivement, on n'est pas exactement dans la même économie de films, mais on est quand même dans une économie de retranchement. C'est le fait d'être sur deux semaines à tout casser de la vie de Maria Callas. Je trouve que c'est un film qui retranche à peu près tout ce qu'on pourrait imaginer d'une œuvre cinématographique qui se concentre sur une grande figure historique comme Callas. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette chute, en fait. C'est le regard de la chute sur ce personnage-là. Je trouve ça assez brillant. Mais je trouve qu'à force de retrancher, le film arrive quand même un petit peu à me perdre par manque d'intensité. Ce que je trouve vraiment beau, c'est le fait qu'il surligne pas certaines choses dans le sens où quand tu l'entends chanter, quand tu la vois tenter cette espèce de comeback complètement impossible, et que tu te rends compte par l'oreille, par la musicalité, qu'en fait tout est fini et rien ne sera plus jamais comme avant, c'est là qu'il y a quelque chose de magnifique. C'est que c'est la musique qui te permet plus que l'image de comprendre qu'on est vers le râle de ce qu'a pu être Maria Callas.
Par un jeu de montage alterné notamment qui met en parallèle la voix
d'avant,
de la Callas,
la voix actuelle.
Autant
de sa splendeur,
Milan, et la voix qu'elle a désormais à quelques jours de sa mort sur la scène d'un opéra sur laquelle elle chante seule d'ailleurs, accompagnée de son pianiste et devant quasiment personne.
C'est là que la reine est très très forte dans cet exercice, je trouve, parce que enfin, moi, il faut le dire carrément, le biopic, c'est un genre dégueulasse, c'est un genre qui ne fonctionne quasiment jamais, que moi j'exècre au plus profond de mon être. Et il y a très peu de gens qui font des choses intéressantes autour d'un exercice aussi balisé et formaté.
Quand j'entends dégueulasse dans ta bouche, je me demande si tu y mets aussi quelque chose de l'ordre de la morale.
Non, pas vraiment. Il
m'arrive de m'interroger devant un certain nombre de biopics, devant l'usage ou le profit que font certains films.
Il y a quelque chose de quasiment pornographique, ouais, dans la façon d'égrener une vie dans toute sa... Dans tout ce qu'elle a de plus linéaire, alors que je pense qu'il n'y a rien d'intéressant à égrener les années comme le font la plupart des cinéastes. Là, quand on prend un film comme Neruda, par exemple, que tu as cité tout à l'heure, on est face à quelqu'un qui est capable de faire un film sur une figure historique aussi fondamentale et d'en tirer quelque chose de cinématographique et quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose qui est vraiment de l'art, qui n'est pas uniquement une fiche Wikipédia du 20e siècle et de quelque chose de banal et de vulgaire. C'est jamais vulgaire, le cinéma de la reine, je trouve.
De la même façon que son précédent film revisitait d'une façon très singulière la figure de Pinochet, le conte qui avait été distribué directement sur Netflix.
Et justement, alors c'est vrai que ça peut avoir quelque chose de très énervant de passer par l'anglais, et moi je trouve toujours ça ridicule de faire des films d'être dans la Rome antique avec de l'anglais victorien, enfin je trouve ça absolument absurde, convention ou pas. C'est quand même quelqu'un qui s'est bien jonglé entre sa langue maternelle qui est l'espagnol et puis à quelque chose de plus international. C'est quelqu'un qui s'est vendu à du gros studio, hein. Jackie, ça avait été fait à l'époque, si je me rappelle bien, avec EuropaCorp. Enfin, c'est des productions qui sont très différentes et à la fois dont il tire le meilleur, il en fait quelque chose de vraiment beau. Et là, je trouve que même pour quelqu'un qui n'est pas justement versé dans la musique classique ou qui n'a pas de repères musicaux précis par rapport à Maria Callas, c'est quand même assez magistral de réussir à te montrer par la musique, par le son, la différence entre la splendeur et la décadence. Et
cette question, elle est même formulée par le film, c'est-à-dire que on demande à Maria Callas si sa domestique est à même de juger de la qualité de sa voix, du fait qu'elle est en train de revenir à son meilleur ou non, et cette question, elle est reconduite à plusieurs reprises dans le film.
Mais elle est... Pour rebondir peut-être sur une chose que dit Florent, et effectivement, parce qu'il me le remet en mémoire d'un seul coup, que effectivement, puisque si on place la musique au cœur du film, les très belles scènes, les scènes d'une belle intensité sont en fait les scènes peut-être les plus simples, sont les scènes de répétition avec son pianiste qui lui vient la chercher, qui la bouscule sans cesse, et que là effectivement on a avec un dispositif beaucoup plus réduit, beaucoup plus simple, finalement quelque chose de fort, et que peut-être le film manque comme ça de cette énergie viscérale qu'il y a dans le chant de l'opéra italien du 19e siècle.
Messieurs, merci. Maria de Pablo Larraine, et c'est d'ores et déjà en salle. Je vous propose, de faire dès à présent une nouvelle pause, et puis nous en viendrons au film suivant de cette table ronde. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4. Thomas Fouet au micro, vous écoutez toujours Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et à l'instant, nous écoutions un extrait de la bande originale de The Brutalist, 3h35, entr'acte compris. The Brutalist, le troisième long-métrage de l'États-Unien Brady Corbett. J'évoque d'emblée la question, mais c'est pour mieux l'évacuer. Peut-être y reviendrez-vous pour votre part. Vous me direz si vous le souhaitez, si ce format quelque peu hors norme sert un projet effectivement monumental, ou si de brutaliste bat d'un cœur plus secret, qu'y a-t-il derrière le béton armé et le marbre de Carrare ? Nous y suivons Laszlo Toth, architecte juif hongrois qui, libéré de Buchenwald, part pour Philadelphie, où il espère pouvoir faire venir son épouse et sa nièce, vivantes elles aussi. Quelques années plus tard, Harrison Van Buren, un riche industriel, lui confie la charge d'un centre culturel, qui est aussi un monument dédié à sa mère. En matière de synopsis, je suis allé vite en besogne, mais vous l'aurez compris, c'est d'une fresque qu'il s'agit. Libre à vous, encore une fois, autour de cette table, de combler les intervalles. Les deux précédents films de Corbett, The Childhood of a Leader et Vox Lux, ce dernier était pourtant porté par Nathalie Portman et Jude Law, n'avaient pas eu les honneurs d'une sortie en salle en France. Deux films dont, je le précise, la bande originale était signée par le regretté Scott Walker. Voilà, ça change un peu d'Alexandre Desplat. Walker, qui sur Vox Lux était toutefois flanqué de l'insupportable Saya, dont je peine toujours à déterminer ce qui est de la musique, des clips ou des chorégraphies est le plus moche, à moins qu'il s'agisse de ses tenues. Quoi qu'il en soit, de brutalité auréolé d'un lion d'argent à la dernière Mostra de Venise répare donc cette injustice faite à la distribution des films de Brady Corbett, un film dans lequel certaines choses sont sans doute plus attendues que d'autres. Ce portrait d'un créateur dévoré par son œuvre, ce parallèle entre l'architecte et l'auteur de cinéma, cette ambition du gros roman états-unien, le capitalisme vorace, les rapports de classe, l'Amérique et ses étrangers qu'elle accueille mais en les humiliant. Mais le geste ne manque pas d'ampleur, et justement, ne nous limitons pas à ça. Le format du film, le projet monumental qui est au cœur de son récit, Clément, nous en parlions hors antenne, tu avais aimé Vox Lux, je te l'avais d'ailleurs entendu dire en réunion de rédaction la semaine dernière. Qu'as-tu pensé donc de ce nouveau film qui est, je le précise, d'ores et déjà en salle, et dans lequel on retrouve entre autres Adrien Brody, Felicity Jones et Guy Pearce?
Alors, ce qui est très intéressant avec The Brutalist, c'est que c'est un film qui nous oblige en tant que critique, on en parlait hors antenne, j'en parlais avec Francis. C'est un film où...
Qui apparemment n'en a aucun souvenir.
Oui, bah, sympa, bon voilà, les auditeurs apprécieront le mépris.
Mais ça va avec l'esprit du film, c'est pour ça.
C'est-à-dire que même un public qui n'est pas nécessairement cinéphile considère ce film comme l'événement, par sa durée, par son ampleur, par son thème qui rappelle...
Par son entr'acte d'un quart d'heure qui
effectivement,
fait événement.
Ça, alors là, moi, je ne comprends pas, j'ai l'impression... Qui est nostalgique du cinéma des années 30, quoi. Enfin.
C'est assez simple, et je trouve ça, d'ailleurs, l'anecdote, juste pour une petite parenthèse, je te redonne la parole, c'est qu'en fait, Brady Corbett, apparemment, a des problèmes d'attention. C'est quelqu'un qui, lui-même, ne pourrait pas s'infliger 3h30 de film, et la seule manière qu'il a eu, en fait, de considérer son projet, c'est de le couper en deux.
Mais donc, bah voilà, bon bah, fermez le banc. Donc, ce qui est intéressant donc, avec The Brutalist, c'est que c'est un film qui, une fois qu'on l'a détricoté, une fois qu'on l'a analysé, et avec panache extrêmement moyen. Et c'est ça qui est très beau. Moi, je ne suis pas un grand fan du film, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi je trouve ça très intéressant qu'un film de 3h30 soit en fait moyen et soit d'un point de vue maximal aussi minimal. C'est l'histoire, donc Thomas l'a dit, d'un architecte alors imaginaire, Laszlo Toth,
inspiré, on le devine, d'un certain nombre de figures du Bauhaus.
Ouais, voilà, du Bauhaus. Qui, alors, on ne sait pas très bien pourquoi, même si bon, n'importe quel spectateur éclairé l'a très bien deviné, est forcé au début des années 50, voilà, fin des années 40, début des années 50, d'immigrer aux États-Unis. Et donc, ce n'est pas du tout une fresque sur les États-Unis qu'une élégie sur la fin de l'Europe. Donc, c'est comment un état d'esprit européen va essayer tant bien que mal, et plutôt mal que bien, de se diluer dans l'esprit américain. Dans les héritiers du fordisme, dans l'industrialisation de tout, dans ce qui est, comment dire, une forme d'épure, mais qui n'est pas une épure, l'épure de béton du brutalisme, mais qui est une épure purement capitaliste, purement tout simplement d'unité de production.
Il y a aussi question d'ailleurs du contact, ou plutôt de la friction entre judaïsme et protestantisme. Enfin, le film joue à plusieurs niveaux sur cette question.
Oui, puisqu'il rencontre il retrouve aux États-Unis, dans une ville un peu paumée, je ne sais plus exactement où, je ne voudrais pas dire de bêtises, quelqu'un qui est de sa famille, qui avait déjà immigré avant et qui était aussi un architecte et qui a un premier un brillant avenir et qui en fait est un vendeur de meubles dans
et
une
qui
ville,
lui a épousé une jeune femme catholique, catholique en revanche. Et...
Exactement. Voilà. Exactement, donc là il y a aussi effectivement quelque chose de religieux qui se joue dans, pour schématiser, la compromission face aux événements ou rester droit jusqu'au bout.
D'autant plus qu'on lui demande, à lui qui fréquente la synagogue, d'édifier une chapelle, mais nous y reviendrons peut-être ultérieurement.
Et donc ce qui est très intéressant, c'est que donc, ce n'est pas, on a beaucoup parlé de dire oui c'est Sergio Leone, c'est Paul Thomas Anderson, pas du tout. Brady Corbett a une éducation cinématographique qui est purement européenne. Et donc c'est un film sur l'incapacité à trouver un pays innocent dès lors qu'on est déraciné, puisque être déraciné, c'est avoir encore quelque part les miettes de racines inscrites. Et on le verra bien, puisque dans le film, à la fin, se posera la question de revenir, pas là où les racines ont été arrachées, là où les racines supposément ont été, où les graines ont été plantées, puisqu'il se pose la question du retour en Israël,
du départ en Israël.
Oui. Bon. Ça, raconter, c'est très intéressant. C'est le point fort du film. C'est qu'à raconter The Brutalist, c'est génial. Et ce qui est génial, c'est que c'est un film de 3h30 qui n'a aucune scène marquante. Qui n'existe que par des micro-événements, que par des personnages qu'on va extirper du plan et des personnages qui échouent constamment. Le personnage de la Slotod, donc l'architecte qui joue par Adrian Brody, échoue constamment. C'est pas un rise and fall à la Scorsese. Il ne réussit en fait jamais il ne parvient jamais à accomplir quoi que ce soit, hormis à la toute fin
via accepté.
Voilà, exactement. Bon, donc on part de là et on se dit que va faire Brady Corbett pour montrer ce crépuscule de l'Europe et cet échec d'un homme qui ne va pas réussir à se couler dans la pensée américaine. On peut se dire qu'il y a plein de moyens de le faire. Le problème, c'est que c'est fait comme une maquette ne va jamais imiter ce qui est une réalisation réelle en architecture. Une maquette, c'est en petit format. C'est une version de chambre d'un projet. C'est un peu pâteau, c'est pas forcément très bien. Les points de colle se voient un petit peu. Si on plisse les yeux, bon, bah, on ne devine pas trop ce que c'est. Et en fait, c'est exactement ça. On voit la maquette d'un grand film qui n'a pas été réalisé, qui reste à l'état d'ébauche, qu'on aime bien en tant que maquette et qu'on n'est pas sûr d'aimer en tant que bâtiment réalisé. Quand le personnage de la Sotot réalise, donc est mandaté par un mécène américain qui en fait a une fascination quasi sexuelle pour l'intelligence que lui ne peut pas avoir, c'est un peu schématique mais c'est exactement ça. C'est un mania qui lui n'a pas la capacité intellectuelle de concevoir.
Il le formule,
le génie,
c'est une jalousie qu'il formule, hein, pas explicitement.
Et donc, sa possession sur le génie va s'appliquer d'une façon extrêmement forcée, didactique, dans une scène qui est sans doute le pivot faible du film, hein, une scène de possession littérale, de connaissance littérale de l'autre. Je ne vais pas spoiler, mais on va essayer de rester un peu...
Je pense qu'on a plus ou moins compris de quoi il était question.
Et donc, on lui demande d'édifier une chapelle. Cette chapelle qu'il va faire en béton, puisque c'est son credo, le béton, n'a aucun kitsch. Et en fait, c'est ce qui manque globalement au film. C'est du kitsch. C'est-à-dire que le film a une telle approche maximaliste. C'est filmé en VistaVision, donc qui est un format... Moi, je suis pas un expert technique, mais a priori, c'est quelque chose qui est censé être épatant. Et pas, avec énormément d'ampleur. On l'a dit, ça fait 3h30. On l'a dit, l'entracte nous pousse nous-mêmes à nous dire qu'on est en train de voir quelque chose d'incroyable, puisqu'on nous force à nous arrêter et à réfléchir sur ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que tout nous pousse tellement à considérer que ce qu'on voit... Bah, en fait, c'est du béton armé que quand ça arrive, on se dit, mais où sont les failles? Où sont les petites fleurs? Où sont ce qui s'appelle en architecture les lignes de vie, qui sont les chemins qu'empruntent les usagers d'une habitation, qui ne sont pas les chemins établis par les architectes, et qui donc créent des coupes, créent des petits endroits, des petites échappées. Où est le kitsch dans tout ce béton? Et j'ai trouvé où est le kitsch, je vais finir, c'est que comme un très grand film sous-estimé, qui est Green Book d'un des Farrelly,
Alors là, tu m'étonnes.
Ce qui est intéressant dans ce brutaliste, c'est que c'est en fait un film qui est un film de classe, qui est un film politique.
Oui, bien sûr.
Tout comme Green Book, la critique, même française d'ailleurs, avait dit que c'était un film qui était complaisant vis-à-vis des Afro-Américains. Ou vis-à-vis des rapports entre noir et blanc,
alors qu'il existait également un discours sur les classes. Mais les deux s'interpénétraient dans le film. Je pense que c'est là que se situe le malentendu sur Green Book, qui est un film que j'aime pas énormément par ailleurs, mais je suis d'accord avec toi sur ce point.
Qui est un discours de classe. Et bien ce discours de classe, en fait, il se voit dans The Brutalist à travers le personnage de l'ami d'Adrien Brody, qui est joué par Isaac de Bancolet, qui devient. Alors, quand le personnage d'Adrien Brody est un vrai prolétaire qui galère et son égal, mais qui est toujours vu comme étant, de fait, par sa couleur de peau, par son éducation, en dessous, en puissance du personnage d'Adrien Brody. Et il y a une scène où, donc, à partir du moment où Adrien Brody redevient architecte et à la tête d'un grand projet, le personnage d'Isaac de Bancolet devient à la fois son ami et un peu son... Je ne sais pas comment expliquer.
Son contremaître,
exactement.
Et son contremaître, voilà.
Tous les plans où donc Van Buren, le mania qui a commandé cette chapelle, tous les plans où il discute avec le personnage d'Adrien Brody, Isaac de Bancolet est exfiltré du plan. Il y a un très beau plan où Adrien Brody parle au personnage d'Isaac de Bancolet, le personnage puissant arrive dans le champ et la caméra panote un tout petit peu pour exfiltrer le personnage noir du plan. C'est là en fait que se joue sans doute le plus beau dans The Brutalist. C'est là où ce sentiment qui peut être un peu, je dirais kitsch, mais on comprend, c'est kitsch dans le sens où c'est dissonant par rapport à l'ampleur monumentale du film. C'est là où quelque chose se joue. Le problème, c'est que c'est trop peu. Et donc, le film recourt, au lieu de recourir à cette intelligence, de faire un peu des pas de côté, à des gros effets de manche, une disparition qui est une pure disparition antonionienne du personnage principal, qui d'un coup disparaît et tout le monde se met à sa recherche pour découvrir qu'en fait, ce qu'il a prévu de laisser et non pas sa présence physique sur la Terre. Un épilogue que je trouve assez intéressant, mais qui est d'un didactisme forcé, puisque ça nous pousse à reconsidérer tout ce qu'on a vu depuis le début sous un autre angle, alors qu'en fait l'autre angle c'était pas du tout un angle mort, c'était l'angle évident qu'on connaît tous, surtout quand c'est joué par Adrien Brody. Voilà, c'est-à-dire que si on considère le film comme un tout petit projet immense, comme une toute petite chapelle de béton quelque part, c'est pas mal. Si on est parti pour dire aux gens qu'on a vu le renouveau de la fresque américaine, non seulement c'est faux, et en plus, ce serait... non seulement c'est faux d'un point de vue génétique, mais en plus, c'est pas ce qui se passe dans le film. Donc c'est un très grand film moyen qui est bien parce qu'il existe, mais dont il est important de préciser qu'on n'est pas face à un chef-d'œuvre absolu, que c'est un film intéressant en tant que critique, qui nous oblige à réfléchir.
Très bien.
Oh, le tunnel, je suis désolé.
Messieurs. Non, non, mais pas du tout, mais c'était passionnant. Je vais laisser réagir nos camarades.
Ça appelle pas mal de commentaires, parce que... en fait, je peux partir de tout ce que tu viens de dire comme point de départ pour dire qu'est-ce que j'en pense au final. Parce que, effectivement, c'est pas... Ben, en même temps, si on commence à questionner le concept de chef-d'œuvre, on n'a pas fini. Je veux dire, qu'est-ce qu'on entend véritablement par là? Moi, ce que m'évoque The Brutalist, c'est en fait un grand film malade, mais dans la noblesse du terme, comme beaucoup de films qu'on peut considérer par ailleurs ratés, mais qui vont vous rester en mémoire toute votre vie. Tu dis qu'il n'y a pas de grande scène, c'est à la fois vrai et à la fois faux, parce que moi je retiens par exemple la scène à Carrare. Il y a des choses qui sont extrêmement belles, qui sont extrêmement réussies dans ce qu'il veut montrer, et à la fois qui sont ratées. C'est-à-dire qu'il y a quand même une scène... je pense qu'on peut le dire, une scène de viol qui est extrêmement troublante à ce moment-là, où je me suis longtemps demandé si j'avais bien vu ça ou si c'était à la limite du fantasme. Et c'est un petit peu tout le temps comme ça. C'est-à-dire, on ne sait jamais trop ce qu'on voit dans The Brutalist, qui à la fois est une œuvre qui se veut ample sur la forme. Effectivement, utilisation de la pellicule 70 mm. D'ailleurs, à ce propos, quand j'avais vu le film à Venise... je me demandais si le film n'était pas flou, s'il n'y avait pas un problème de points, parce que les sous-titres étaient flous. Et là, d'une certaine manière, je trouve que c'est une forme de métaphore sur ce qu'est le film, à savoir jamais totalement au point. il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais à la fois, je trouve que ça le rend séduisant. Je trouve que c'est le fait même qu'il coupe son film en deux. Quand je dis que c'est parce que lui-même, ça lui ressemble, il y a quelque chose de la ressemblance avec son auteur, le film qui est obligé de prendre une respiration pour exister. Il y a quelque chose de fascinant, même dans cette constitution-là. Et oui, il crée de l'événementiel avec son film, parce que ça pourrait être targué de film de festival, et à la fois, la sortie prouve bien que ça trouve de l'intérêt chez tout le monde. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait pendant cet interlude. Moi, j'avais jamais vu en festival autant de vie pendant le film. Les gens sortaient, rentraient, allaient boire un coup, discutaient. Il y a quelque chose qui se passe autour de ce grand film malade. Et rien que pour ça, je trouve qu'il réussit quelque chose et que le film reste longtemps en tête. Après, oui, effectivement, c'est pas un film, c'est pas Once Upon a Time in America. C'est pas un film qui va parler de la Constitution de l'Amérique. Moi, il me fait plus penser au film de James Gray, The Immigrant. Il y a des parallèles qui sont assez évidents avec le personnage qui vient d'Europe de l'Est, qui est trahi par quelqu'un de sa famille en arrivant, et qui est un objet de souffrance permanent, qui est tout le temps dans le dolorisme, même dans le corps, au niveau corporel. Après, juste un dernier point pour lâcher la balle. Je dirais que Adrien Brody, il faut quand même insister sur le fait que c'est un acteur qui est quand même exceptionnel, justement à ce niveau-là, au niveau corporel, au niveau du corps. Donc on pense, évidemment, tu l'as un petit peu suggéré, au pianiste de Polanski, hein. On pense à cet itinéraire-là. Et moi c'est quelqu'un que j'avais découvert il y a bien longtemps dans Summer of Sam de Spike Lee, et qui déjà à l'époque était ce corps, ces grands segments, cette espèce de corporalité étrange qu'on a du mal à définir et pourtant qui est magnétique à un point qui est pas possible, et qui s'exprime au-delà des décennies jusqu'à ce film-là d'une manière qui est indéfinissable. Donc tous ces aspects pour moi font que le film est un grand corps malade, mais fascinant.
Francis.
Oui, bah alors je vais en profiter puisque tu parles de musique à la fin.
C'est vite dit.
Oui, alors donc non mais moi,
oui, je l'ai.
C'était la plus dure à faire, celle-là. Non, mais tout ça parce que, comme on a écouté un petit peu en introduction la musique de Daniel Bloomberg, effectivement, on peut dire que peut-être tout converge vers quelque chose, puisque donc ce qu'on a entendu, c'est un morceau qu'on a en ouverture du film, quand le personnage de Laszlo Toth arrive justement en Amérique et émerge au bout d'un très très long tunnel. Et comme ça, c'est une musique qui a des influences liées au piano préparé de John Cage, mais liées aussi, à mon sens, à la musique bruitiste. Et la musique bruitiste, ben, c'était quoi? C'était effectivement la musique du bruit des machines créées par l'homme. Et finalement, du bruitisme au brutalisme, il y a une espèce de convergence des arts où on laisse apparent, ben, justement, le béton, la forme, tout ce qui fait industrie, quelque part. Et donc je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment Bloomberg lui intégrait ça dans la partition musicale, qui va aussi être une partition de jazz dans les moments intradiégétiques de la musique du film. Mais voilà, comment tout ça résonne. Et puis je vais commencer par être très honnête, en fait le brutalisme, moi je ne connaissais pas comme mouvement architectural, donc évidemment quand je suis arrivé, pour moi le brutalisme c'était pas ça, et j'avais une autre vision, une autre appréhension du film. Alors le brutaliste, après, j'ai fait des recherches, hein, et j'ai trouvé un article passionnant, donc du coup, je vous conseille, dans le magazine Marie-Claire, on va tous devenir des grands spécialistes du brutalisme.
Pour le coup, je suis même pas convaincu que le film soit particulièrement précis sur la question du brutalisme.
Ouais, non, il est pas...
Absolument,
ça, je suis d'accord avec toi. Mais donc, du coup, si vous voulez avoir, avant même d'avoir vu le film, si vous dites, mais le brutalisme, c'est quoi? Vous pouvez découvrir des monuments brutalistes en France. Il y a la maison de l'UNESCO à Paris. Et puis, si vous êtes plutôt banlieusard, eh bien, il y a les choux à Créteil. C'était des immeubles ronds.
Absolument.
Et l'idée était de créer des immeubles d'habitation qui changent des barres HLM. Donc, moi, je m'en rappelle vaguement que ça avait été un scandale à l'époque. Mais voilà, ils existent. Ils sont toujours là avec leur balcon en forme de feuille de chou. Voilà, donc, d'un seul coup, voilà, je suis devenu plus pertinent sur le brutalisme grâce à Marie-Claire. Et donc, pour moi, le brutalisme, au point de départ, c'était effectivement le capitalisme. Et c'était... Voilà, cette espèce de rêve américain qui se transforme d'un seul coup en violence du capitalisme, d'où d'ailleurs peut-être aussi les deux parties du film, hein, puisque la première c'est le rêve américain et après c'est la réalité du rêve américain. Et qu'on est sur... Oui, je sais, c'est facile.
Non, bah, c'est surtout... Moi, je trouve ça... Non, rien. Mais je trouve qu'il n'y a pas de rêve, ça, à la limite, qui est... C'est ça qu'il échoue constamment.
Bah, y a pas... une forme de... Alors, oui, effectivement, il n'y a pas de rêve, mais dans ce cas-là, si on prend la scène d'ouverture du film, donc, dont on a entendu la musique, c'est cette scène donc, où on est dans un tunnel, où il n'y a pas de repère aussi bien pour les personnages que pour le spectateur. On ne sait pas où on est, on ne visualise pas très bien les choses. On est perdu, cette scène est longue, hein, puisque la musique fait pratiquement 4 minutes, et on est là-dedans, et on va arriver au bout du tunnel, à Ellis Island, l'endroit du tri sélectif des immigrés, et donc on va être finalement comme des rats. C'est-à-dire que, voilà, peut-être effectivement, par rapport à ce que tu dis, Clément, le personnage de Laszlo qui ne réussit rien, c'est que toute sa vie, finalement, il sera un rat, il restera un rat. Lui, en tant que personnage, nous, en tant que spectateurs, on sera... toléré mais toujours méprisé, et il y aura finalement que grâce peut-être à une notoriété qui pourrait venir que la société bienveillante avec guillemets nous tolérera. Et je pense que le film c'est pour moi c'est ce qu'il dit, et qu'il le dit dès son plan d'ouverture, et que c'est ce qu'il tire jusqu'au bout. Et j'aimais bien ce que disait Clément, finalement, de dire, alors moi, ça ne serait pas avec les mêmes choses, mais que c'est un film politique, alors que Brady Corbett, dans le dossier de presse, se défend, mais aujourd'hui, tous les cinéastes se défendent de faire des films politiques, ça commence à devenir...
C'est un gros mot.
Je suis désolé, gonflant. Si on en fait un, on en fait un, c'est pas grave. En plus, en ce moment, je crois qu'il faut en faire. Si, c'est un film politique.
Parce qu'on a peur de fâcher les spectateurs et les spectatrices.
Peut-être aussi, mais peut-être pas que les spectateurs et les spectatrices, aussi le milieu dans lequel on travaille.
C'est par lâcheté, c'est par pression commerciale, et effectivement, c'est par peur du milieu éventuellement dans lequel on travaille.
Et donc, je pense qu'il a réalisé, quel que soit ce qui en a été dit et avec intérêt, effectivement, un grand film politique.
Messieurs, merci. Moi, je vous le recommande. Allez-y, c'est du cinéma. The Brutalist de Brady Corbett, c'est d'ores et déjà à découvrir en salle. Et puis, on vous l'a dit, détendez-vous. Un quart d'heure d'entracte pour aller faire vos petites emplettes faire un tour aux toilettes.
C'est quand même une bonne idée. C'est-à-dire que ce qui est fait de l'entracte est... C'est quand même assez puissant.
Et je dois dire que pour ma part, la durée n'a pas excessivement pesé. Alors, on fait une dernière petite pause musicale, et puis on enchaîne les deux derniers films de ce tour d'horizon des sorties en salle. On se retrouve dans quelques instants. De Frédéric Farrucci, dont nous venons d'entendre un extrait tiré de la bande originale. C'est donc Après la nuit venue, le deuxième long métrage, je vous le disais, de Frédéric Farrucci, dans lequel Joseph Berger, sur le littoral corse, commet l'irréparable après avoir refusé de vendre ses terres à un parrain local. Je m'explique, contraint de prendre le maquis après avoir pris de panique abattu celui-ci, il devient, grâce entre autres à sa nièce, revenue sur l'île pour les vacances, un véritable phénomène de société et le catalyseur des problématiques du territoire. Dans le rôle de Joseph, Alexis Mananti, vu notamment dans Les Misérables de Ladjili et Le Ravissement d'Iris Kaltenbach. À ses côtés, Mara Tinquin, révélé dans Rien à foutre d'Emmanuel Mar et Julie Decoustre. Souvenez-vous, à l'époque de la sortie du film, nous avions reçu les cinéastes sur ces mêmes ondes, donc. Mais aussi Théo Frimigacci et Paul Garat. Je me cite, sinon, qui le fera? C'est probablement davantage qu'un hasard de calendrier. En l'espace de quelques mois, sont sortis trois films, à son image, de Thierry de Peretti, Le Royaume de Julien Colonna et ce second long métrage de Frédéric Farrucci, signé par des cinéastes corses aussi prompts à battre en brèche les clichés continentaux qu'à embrasser la complexité géographique, historique et politique de leur territoire d'origine. À partir d'une réalité de l'île, la mutation progressive de son littoral en paysage balnéaire, la pression exercée par des promoteurs mafieux sur les propriétaires de terrains lucratifs, et dans la foulée du prometteur La Nuit Venue, Farrucci opte ici pour la voie du genre et signe une façon de western dont l'action ne sert rien de moins qu'une étude de l'aménagement du territoire. Pardonnez-moi, ma langue commence à fourcher, c'est normal. Il est 11h12. C'est en salle depuis le 12 février. Francis, tu as vu Le Mohican?
J'ai vu Le Mohican.
As-tu dénoncé aux autorités?
Pas du tout. Je vais d'abord effectivement rebondir sur la première chose donc, que tu signales, qui est comme ça cette espèce d'éclosion d'un territoire et d'un cinéma qui serait corse et pas juste un lieu, une terre de tournage. Moi, j'ajouterais à ce film, même si lui est un continental, mais pas un habitant, j'ajouterais le film de Stéphane de Moustier, Borgo, hein, qui aussi plonge alors dans la Corse, alors la contemporaine. Mais jusqu'à présent, si on met en réserve un film comique comédie de 2021, on est sur des...
Très beau film que nous avions évoqué aussi sur ces ondes.
Exactement. Donc,
c'est que ça commence à en faire des films.
Et des films corses. On est pour l'instant sur des récits qui sont des récits de la violence du territoire. C'est important, utile, effectivement, entre les dérives mafieuses, le désir indépendantiste. Alors, je le précise tout de suite, je ne fais pas un lien de cause à effet entre les deux. Je ne suis pas chroniqueur sur une chaîne d'infos en continu. Mais on est, voilà, sur, comme ça, des films d'un territoire pétri de violence. Et on se dit que peut-être, on espère pour le cinéma aussi corse, qu'un jour, on va peut-être avoir des récits qui seront plus apaisés, si effectivement, la Corse elle-même se permet un apaisement. Je pense que c'est un film... Frédéric Farrucci dit son amour de la terre, de cette terre de rivage, de maquis. Moi, ce que j'aime finalement dans le film, c'est cette espèce de spirale infernale de la traque qui sans arrêt avance et après ce meurtre accidentel en fait permet juste au personnage à chaque fois de se remettre quelque peu, avoir un temps de repos mais très très court. Le scénario fait pas beaucoup d'embâches, quoi. On est vraiment là-dedans, juste dans cette traque, et à chaque fois un nouvel élément vient la redynamiser, la remettre en œuvre. Et finalement, au bout du compte, je me dis que le personnage donc du Mohican, interprété par Manenti, c'est une sorte de Sisyphe qui, sans arrêt, pousse son rocher et puis n'arrive jamais en haut. Mais finalement, avec cette besogne qui recommence éternellement, et ici, y compris en dehors, après le générique de fin, en fait, il choisit quelque part, comme ça, une forme de lutte et de survie pour constituer le cœur de son existence. Et je trouve que c'est ce qui fait peut-être la force du film.
Et un personnage à plus forte raison qui, à mesure qu'il se dissout dans le territoire, se répand sur les réseaux. Je trouve que l'idée est assez belle. Je parlais aussi de cette traversée du territoire que permettait le film, c'est-à-dire qu'on traverse les villas avec piscine, les lieux balnéaires, mais aussi les habitats plus traditionnels, les exploitations agricoles. Je trouve que cette traversée que permet le film est assez passionnante. Il y a comme une cartographie de la zone
du territoire
géographique qui est assez passionnante. Clément?
Je suis un peu embêté parce que moi je trouve ça super que vous parliez.
Que vous trouviez ça super?
Ouais, non, mais j'ai pas envie. J'ai pas été particulièrement cueilli, mais je trouve pas ça. C'est une pure question d'intensité. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, ce que documente le film, c'est la naissance d'un mythe, et donc à quel les trois corps du mythe, le corps physique, donc à travers donc ce berger qui est forcé de fuir et qui donc développe de fait des capacités quand même assez surhumaines au niveau de la résilience de son corps, par exemple, vis-à-vis des balles ou vis-à-vis de la manière de courir. Le corps numérique, faut avouer que le film a quand même c'est quand même un des rares films qui gère extrêmement bien le recours aux nouvelles technologies d'en faire, puisque la... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, ça va être la nièce, hein, c'est ça ?
C'est ça.
La nièce du héros.
Qui est revenue sur l'île, mais qui
est considérée comme étant une continentale, oui. Prend à bras le corps cette cause pour ce Mohican qui résiste à la mafia, utilise pour se faire les réseaux sociaux qui ne sont pas, pour une fois dans un film, considérés comme étant vraiment l'outil du diable, impossible de... sans aucune nuance, où on est tous protégés par le pseudonymat, blablabla. Pour être dans l'actualité et des débats ridicules actuels.
Et on est sur une plateforme qu'on peut nommer, qui est X aussi.
A priori, oui.
Je ne sais plus si elle est nommée.
Elle n'est pas nommée, non, mais c'est un réseau social où il y a des interactions via des likes.
Voilà.
Et donc, où cette
réseau social dont les fiches du cinéma, je précise, sont en train de partir.
Exactement. Donc cette viralité, cette dimension réticulaire de la pensée du héros qui se manifeste dans sa dissolution dans l'espace et dans sa dissolution dans l'espace numérique, c'est ce qui est intéressant. Après, ça c'est intéressant parce que j'ai une pensée politique et critique sur le film. D'un point de vue plus cinématographique, la dimension... c'est vraiment un film de genre, mais le premier film de Farouchi était aussi un film de genre.
Absolument, oui.
Il investit
on était plus
dans
le film noir, exactement, dans La Nuit Venue.
Il investit des lieux qui sont... avant c'était Paris, là c'est la Corse, vu par la bande périphérique complètement, et de voir comment on peut y évoluer. La dimension survival horror, parce que c'est un peu comme ça, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui est traqué de tous les côtés, me paraît pas toujours extrêmement bien tenu et surtout se disperse quand même beaucoup avec le personnage de la nièce qui devient à moitié enquêtrice, en même temps soutien moral, en même temps adepte d'une espèce de statu quo qui est quand même un truc un peu agaçant de vouloir à tout prix reprendre. Toujours la dimension de reprise, c'était un peu moi ce qui me dérange aussi dans Vain Dieu, qui est un film, je ne sais pas si vous en avez parlé ici.
Nous avons parlé de Vain Dieu.
Qui est cette obsession du statu quo de vouloir formuler qu'un attachement territorial repasse nécessairement par une reprise d'activité. On peut aimer un territoire et refuser qu'il soit bétonisé sans vouloir absolument reprendre le même.
Reprendre la bergerie
de tonton. Donc, ça m'a quand même dérangé sur le long terme. Le film n'a pas essaimé grand-chose en moi, hormis ça. Ce personnage, cette représentation d'une dissolution et d'une dissolution numérique et virale qui n'est pas nécessairement mauvaise et qui peut forger une légende.
Le Mohican de Frédéric Farrucci, vous pouvez le découvrir au cinéma depuis le 12 février, dernier film de cette table ronde à présent. When the Light Breaks, c'est le nouveau long métrage de l'Islandais Runarsson, présenté l'an passé en ouverture du Certain Regard au Festival de Cannes. L'argument, en quelques mots, nous sommes à Reykjavik, un couple clandestin, Una et Didi, étudiants en art, passent la nuit ensemble. Didi s'apprête à prendre l'avion pour aller rompre avec sa copine officielle, Clara. Quand Una se réveille, il est déjà parti. Quelques heures plus tard, elle apprend qu'un accident a eu lieu non loin de là. Didi, dont le vol avait été annulé, s'y trouvait. Citons Michael Ganham, encore lui, il est décidément partout dans les fiches du cinéma. Runarsson, nous dit-il, contrôle parfois trop ostensiblement ses cadres avec une mise en scène clinique et un peu froide, mais il sait laisser naître l'émotion dans des séquences d'où ressort la complicité de sa petite troupe. J'ai échoué à compter le nombre des câlins dispensés dans le film, mais comme c'est agréable, un peu de bienveillance. Je crois savoir, Francis, que tu as été sensible au film, ému peut-être bien. Cette émotion ne serait-elle pas permise par l'attention portée au visage de la protagoniste et des émotions qui traversent ce visage ? Je ne te suspecte pas d'être tombé amoureux de la protagoniste. Je t'entends déjà râler avant que de prendre la parole. Je dis que le film porte une attention toute particulière au visage de ses protagonistes et surtout de sa protagoniste principale, et donc une fois encore des émotions qui les traversent. Qui sont-ils, ces protagonistes, ou par qui sont-ils interprétés plutôt ? Elina Hall, Michael Kaber, Katia Njálsdóttir et Baldur Einarsson. Et je précise que le film est en salle depuis le 19 février. Florent, Francis, qui veut ouvrir les débats ?
Bon, bah alors j'ouvre les débats et je resitue.
Lancer le débat, ouvrir le bal, enfin vous me connaissez.
Voilà,
je mixe les expressions, c'est pour stimuler votre attention.
Et en fait, j'avais un petit peu, voire même beaucoup, carrément perdu de vue Renard Runarsson, j'avoue. Parce que la première fois que j'avais découvert, et puisque tu parles d'attention au visage, ça me permet de rebondir là-dessus, la première fois que j'avais entendu parler de lui, c'était en 2009. Avec son film de fin d'études qui s'appelait Anna. Et c'est pareil, on avait une même simplicité du récit que ce qu'on a là. On s'intéressait à une fillette d'une douzaine d'années qui était à la fois, elle se débattait avec elle-même et son adolescence, avec des parents, entre une mère qui était enceinte et qui s'occupait peu d'elle et un père qui était au loin. Et on était comme ça à la fois dans un même mélange de cadrage serré, donc proche des visages, et puis une espèce de douceur aussi qui les englobait, et puis par moments, le cadre s'ouvrait, s'élargissait, comme ça va être le cas ici, et on resituait les personnages finalement dans cette terre rude, mais tellement belle, qu'est la terre d'Islande. Donc voilà, mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est aussi ce fait que si on écrivait le scénario du film, et il a forcément été écrit, bien sûr, il pourrait presque tenir sur un ticket de métro. Et là, c'est une journée... Et évidemment, et là, tu vas... Je sens te moquer, cher Thomas, parce que chez Runarsson, le deuil, il se concentre sur une journée. Alors, c'est son côté Pablo Larraine, sans doute. Mais c'est pas ça. Alors que finalement, un autre...
Un de soleil à un autre, on fait le tour de l'horloge.
Voilà. Alors que quelqu'un d'autre qui a fait un grand film sur le deuil, et donc on y revient, c'est Michael Hertz avec ce sentiment de l'été, et que lui se concentrait sur trois étés. Mais je trouve, en disant ça, que c'est pas juste une formule. C'est que pour moi, il y a cette même attention, il y a cette même douceur qui entoure les personnages. Tu parlais comme ça, voilà, du nombre de câlins qui ont lieu dans le film. Je trouve qu'il y a quelque chose du câlin chez l'un comme chez l'autre, et il y a quelque chose évidemment très fort chez l'un comme chez l'autre, qui est dans un premier temps, dans une première partie du film, de prendre du temps avec les protagonistes et donc de créer évidemment une empathie envers eux, pour avoir d'un seul coup comme ça une disparition subite. Alors évidemment, maintenant que je l'ai dit, pour le spectateur qui ira, ça sera plus subi, mais il y avait ça aussi dans ce sentiment de l'été. On ne s'attend pas à ce qu'un personnage parte du film, disparaisse. Et en même temps, ce que je trouve très très beau dans le film, quand tu citais le texte de Michael Genham, peut-être ostentatoire, mais en même temps très très beau, très très fort, c'est toute cette réflexion sur l'illusion d'optique. Et ça démarre de ce tunnel au début. On comprend pas où on est, et on voit juste des points de lumière qui semblent presque être au sol, et petit à petit on finit par réaliser ce qu'il est, et là j'en dis pas plus. Et puis comme ce plan magnifique sur l'illusion d'optique, mais finalement sur la manière dont on regarde les choses, avec cette façade d'église qu'on regarde, et en se concentrant, comme il est proposé à un des personnages du film de le faire, d'un seul coup de découvrir que ça pourrait être un sol suivant la manière dont on regarde, et qu'on aurait les pieds au sol. Et je trouve qu'il y a ça, et finalement tout le film va être sur ça, sur... Au moment où quelqu'un disparaît, comment on va regarder le monde d'un seul coup, quelqu'un de proche bien évidemment, comment on va réenvisager de regarder le monde. Et je trouve que c'est ce que réussit magnifiquement le film.
Florent.
J'aime beaucoup le fait que tu appuies sur la façon dont Runarsson regarde les visages, parce que à plusieurs mois d'écart, quand je me souviens du film, je me souviens du visage du personnage principal, Duna, joué par Elinal. J'ai été frappé par cette capacité qu'il a de créer quelque chose dans le plan autour de ce visage-là. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu, si on s'amuse à faire des recherches autour de cette actrice et qu'on voit à quoi elle ressemble d'une manière générale, elle est très différente de ce qu'elle est dans le film. Il y a une... c'est pas quelque chose de fortuit, c'est quelque chose de vraiment pensé, de vraiment écrit et de vraiment construit. Il construit un personnage dans le plan qui... qui est extrêmement singulier. Elle a quelque chose de particulier. Elle a vraiment quelque chose qui imprime la rétine. Et le film, vous dites à juste titre qu'effectivement, il y a beaucoup de bienveillance, qu'il y a beaucoup de tendresse autour de ce moment de deuil. Mais ce qui est, à mon sens, extrêmement fort, c'est que cette tendresse cache un secret lourd et cache beaucoup de souffrance. C'est-à-dire qu'elle est obligée de taire sa souffrance. On peut exactement, effectivement le dire dès le départ qu'il y a un deuil, qu'il y a un personnage qui disparaît. Je te suis d'ailleurs extrêmement gré de citer la première scène du film de Michael Herz parce que j'ai instantanément envie de le revoir en entendant parler de ça, où on avait ce personnage qui, à l'issue de la scène, disparaît. Là, on le sait tout de suite. Et pourtant, il reste par l'intermédiaire de cette souffrance, par l'intermédiaire de cette énergie qui habite ce visage qui est de tous les plans. Et je vais juste me permettre un dernier commentaire. Je ne sais pas comment fait ce pays avec 400 000 habitants pour créer autant culturellement et même sportivement de choses extraordinaires. Ces 400 000 habitants qui arrivent à se renouveler perpétuellement dans un film, dans un récit qui n'est pas non plus un cliché du cinéma islandais. On n'est pas entre deux brebis et deux barbus comme on a pu le voir précédemment.
Ça, c'est le Mohican, ça.
Ouais, mais qui était aussi
c'est
belge.
Quelque chose de très partagé, la brebis à l'international. Hein. Ça transcende un certain nombre de cultures. Hein.
Et donc là, on est dans autre chose. On est vraiment dans l'exacerbation de cette souffrance à l'écran que j'ai trouvé vraiment magnifique.
When the Light Breaks, le film est d'ores et déjà en salle. C'est déjà presque la fin de l'émission, puisque nous en venons à présent à mon moment préféré, celui des coups de cœur. Je me tourne donc vers vous. Y a-t-il un enthousiasme que vous souhaiteriez partager avec nos auditrices et auditeurs? Un livre, un album, une expo, un point de chute pour nos avenirs incertains, une marque de jean bootcut pour imiter Kendrick au Super Bowl, une idée de cadeau de mariage pour Benny et Selena? Et pourquoi pas un film si vous aimez tant ça? C'est à vous, à qui je passe la parole en premier. Tu m'as parlé d'un film tout à l'heure,
oui.
Clément. Tu ne m'as pas nommé, mais tu m'as dit que tu voulais mettre
exactement
à l'honneur un film.
Alors, il y a trois choses que j'aime beaucoup dans la vie. C'est les rides de veau, les pénalties arrêtées par les gardiens au foot, et le documentaire de montage d'archives, que tout le monde aime bien, en fait. On sait, par exemple, que le cinéma roumain est très fort dans le documentaire de montage d'archives. Moi, je voudrais recommander, alors, ça s'appelle donc, « Un mythe télévisuel anthropologique ». C'est un documentaire d'une heure qui est disponible sur Mubi. Donc là, on peut dire que vraiment la voilure est très réduite. Mais je peux offrir les films sur Mubi. Donc je vais laisser mon numéro de téléphone à l'antenne et puis vous me demanderez, m'enverrez un SMS. C'est un documentaire donc de trois personnes dont je citerai le nom à la fin, qui gère donc qui a monté les bouts, les rebuts d'une station de télévision locale en Sicile au moment du maxi procès, donc 90-95. Et qui donc forme une histoire populaire, pas du tout, enfin, politique évidemment, mais pas du tout politisée avec le maxi-procès, les fugitifs, de ce que c'est que d'être sicilien dans les années 90, c'est-à-dire être encore obligé de fuir, ou enfin, en tout cas d'aller travailler en Allemagne pour ne pas mourir de faim, avoir la peur de sa vie en allant à la boulangerie quand on te demande si tu sais si la personne qui a été retrouvée cachée dans le fin fond d'un champ, tu la connais ou non, ou est-ce que tu avais un peu parlé avec elle ou non. C'est très beau, c'est très touchant, c'est parfois extrêmement minime et anecdotique, parfois extrêmement, enfin très proche du Ici et ailleurs de Godard sur la dimension purement prédatrice des images montrées à la télévision, sur la dimension exogène de la télévision, c'est-à-dire à la fois un corps étranger et un corps sans la moindre gêne, alors que la fiction peut encore être quelque part une forme de protection. Donc ça s'appelle un mythe anthropologique télévisuel ou un mytho anthropologico televisivo. C'est fait par Dario Castelli, Alessandro Gagliardo et Maria Elena Bertino. Et c'est sur Mubi, sinon ça se trouve nulle part ailleurs. Je pense que...
Merci Clément. Florent.
Oui, tu oublies les gencives de porc dans tes passions dans la vie. Hein. Je tenais à rétablir cette vérité.
C'est vrai.
Oui, alors moi j'aurais pu vous parler d'Eternal Strands de Yellow Brick Games, qui est un jeu vidéo d'aventure sur lequel je me suis beaucoup amusé ces derniers temps. Mais une fois n'est pas coutume, je préfère vous parler d'un roman qui a eu beaucoup d'éclairage médiatique, mais qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. C'était Patronyme de Vanessa Springora, où elle détricotait toute son histoire familiale, et notamment l'histoire du père. Cette figure lointaine qui est absente, qui lui avait légué donc son nom de famille, hein, comme l'indique le mot patronyme, et jusqu'au grand-père et aux révélations lourdes de sens qui s'en suivent. Donc c'est son deuxième roman, donc après le consentement, donc qui a été adapté au cinéma. Et je trouve que c'est un roman vraiment magnifique qui vraiment est dans l'enquête et dans quelque chose qui est à la fois aussi très littéraire et une d'intime et de quête de soi que j'ai trouvé vraiment sublime.
Francis, est-ce que tu as pensé à un petit coup de cœur, ou bien je nous souhaite à toutes et à tous d'ores et déjà une bonne journée sur les ondes de Radio Libertaire?
Oh, j'ai pas pensé à un petit coup de cœur, mais je redirais juste, puisque moi en tout cas ça m'a ramené effectivement vers elle, que même si on va pas voir le film de Pablo Larraín, Maria, on peut effectivement écouter la musique du film qui est sortie, y compris en CD, donc c'est assez rare, donc on va le signaler chez Warner Classic, et qui permet une première approche effectivement de Maria Callas, et sur lequel on va trouver aussi d'autres musiques qu'on trouve dans le film, et y compris une musique qui est utilisée à la fin du film de Brian Eno. Donc on pourra aller de la Callas à Brian Eno, pardon.
Florent, Clément, merci à vous. Chers auditrices, chers auditeurs, on se retrouve donc le mois prochain, samedi 22 mars, même heure, pour vous parler de cinéma et vous parler de la musique, une activité qui nous procure de la joie et, du moins, nous l'espérons, ne vous occasionne pas une nuisance excessive. Francis, merci à toi une fois encore. Nous nous quittons donc en musique avec un nouveau titre, Nostalgie Oblige, de Ponyhawks, dont je vous rappelle qu'un tardif best-of agrémenté de deux inédits sortira le 12 avril. Ça s'appelle Antibodies. C'est extrait de leur splendide deuxième album, Images of Sigrid, paru en 2008. Je vous rappelle que vous êtes à l'antenne de Radio Libertaire. C'était longtemps, je me suis couché de bonne heure, une émission proposée et créée voici 27 ans par monsieur Francis Gavel. Émission préparée et présentée par Francis et moi-même, Thomas Fouet, enchanté, et réalisée par Erwan Charton. Nous vous souhaitons une bonne journée à l'écoute de notre station, et puis allez, pour le même prix, un bon week-end. La bise et à bientôt les amis. Such a waste. My wishes.